Tout de suite le journal, Isabelle Millet. Bonsoir à tous. Voici les titres de votre journal. 3 mois après leur procès ultra médiatisé, les époux Balkany, tous les deux lourdement condamnés pour fraude fiscale. 4 ans ferme pour le maire de Levallois qui a été immédiatement conduit en prison. 3 ans ferme pour son épouse qui, elle, n'a pas été incarcérée mais qui accuse le coup.
Je suis aussi indignée. La sanction est unique et démesurée.
Isabelle Balkany, l'avocat du maire de Levallois, lui, parle d'humiliation insupportable, on l'entendra. L'actualité, c'est aussi une tête qui tombe dans la police après la mort de Steve Canisso à Nantes le soir de la fête de la musique. Celle du commissaire en charge de l'intervention, accusé d'avoir manqué de discernement. La galère, comme prévu aujourd'hui pour des millions de franciliens. Et si c'était un ballon d'essai ? À propos de ballon, grosse déception en basket aujourd'hui. Les Bleus n'iront pas en finale des championnats du monde. En foot, 2 matchs avancés ce soir en Ligue 1. Tout à l'heure, Lille a battu Angers 2-1. Et en ce moment, vous suivez Sébastien Boé, la rencontre entre Amiens et Lyon. Ça donne quoi, Sébastien ?
Eh bien, 2-1 pour l'Olympique Lyonnais après 57 minutes de jeu.
Merci Sébastien Boé, que l'on retrouvera plus longuement dans le courant de ce journal. Il va faire chaud, très chaud demain. Temps estival sur la moitié nord, mais des nuages au sud. Pour tout savoir, ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Éric Cavillon. Il est le directeur général casino du groupe Barrière. Barrière qui ouvre ce vendredi son premier club de jeu à Paris.
Europe 1.
Et ce coup de tonnerre donc à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, le maire historique de la ville dort ce soir en prison, Patrick Balkany, condamné à 4 ans ferme pour fraude fiscale. Il a été conduit à la maison d'arrêt de la santé à Paris dès l'énoncé du jugement. Son épouse Isabelle est elle aussi condamnée à 3 ans ferme, mais elle échappe à une incarcération. Tous les deux font appel. Isabelle Balkany qui a réagi en direct ce soir sur Europe 1.
Je suis aussi indignée. Parce que je considère que nous avons fait une faute fiscale personnelle, privée, que nous avons reconnue. Nous avons fait une faute, nous méritions une sanction. Moi, j'ai toujours assumé mes erreurs, et mon mari aussi, et c'est ce que nous ont appris nos parents. Maintenant, là, je le dis clairement, la sanction est unique et démesurée.
Isabelle Balkany, ce soir sur Europe 1, dans le grand journal du soir de Nathalie Lévy. Chloé Triomphe, vous étiez au tribunal correctionnel de Paris au moment de l'énoncé du jugement. Racontez-nous, Chloé, comment ont réagi les Balkany à l'annonce de ce jugement ?
Eh bien, ils ont marqué le coup, comme on dit, visiblement choqués par ce départ en prison immédiat. Isabelle Balkany est venue prendre son mari par la taille avant d'échanger un baiser appuyé sur la bouche, puis de se serrer dans les bras avec leur fils Alexandre. Une scène resserrée, peut-être 1 minute dans cette sorte d'instant suspendu où la salle d'audience est totalement silencieuse. Puis, Patrick Balkany est parti entre 2 policiers pour rejoindre le fourgon de l'administration pénitentiaire et la prison de la santé où il dort ce soir. Une incarcération immédiate, donc, que le tribunal a expliqué par la gravité des faits de fraude fiscale pour un élu de la République, mais aussi par le risque de voir Patrick Balkany quitter la France d'ici le 18 octobre, date du jugement du 2e volet de l'affaire, où il encourt 7 ans de prison pour blanchiment et corruption.
Merci Chloé Triomphe qui a suivi donc pour Europe 1 ce procès des époux Balkany. En tout cas, ce soir, à l'énoncé du jugement, l'avocat de Patrick Balkany, maître Éric Dupont-Moretti, ne décolérait pas.
Ce qui me choque le plus, c'est évidemment le mandat de dépôt qui est une humiliation totalement inutile et pour nous insupportable. Jamais personne ne peut dire sérieusement que M. Balkany aurait tenté de prendre la fuite. Il a été présent à tous les actes de la procédure. Je pense qu'on s'est payé Balkany aujourd'hui. Nous allons bien sûr interjeter appel et nous n'acceptons pas que l'on se soit payé Balkany. Ce que nous attendons, c'est que Balkany soit jugé. Et c'est singulièrement différent.
Maître Éric Dupont-Moretti, alors on le sait, les époux Balkany sont très appréciés dans leur ville. Pour beaucoup de Levalloisiens, ce soir, l'annonce de leur mère qui dort en prison, eh bien c'est un choc.
Je pense que pour tout Levallois, c'est une nouvelle qui est épouvantable, qui n'est pas forcément justifiée. Donc je pense que voilà, la ville est vraiment attristée, il fait énormément de choses pour nous. Malheureusement, on perd tout. Voilà, donc... Tout s'écroule là.
Je pense qu'on a voulu lui couper l'herbe sous le pied, quoi, c'est tout, parce que bon, bah, il fait beaucoup de choses pour Levallois. Et moi, je me dis, peu importe, je m'en fous. Sa ville, la ville de la Pamplemousse, pardon, elle appartient à qui ? Je m'en fous. L'argent, je m'en fous. Moi, ce que je regarde, c'est comment il a rendu Levallois et comment on est traité. Voilà, c'est tout.
Tout le monde a bénéficié de tout ce qu'il a fait. Maintenant qu'ils se mettent dans la poche de l'argent, Ça, c'est autre chose. Donc, il doit payer pour ce qu'il a fait. C'est normal qu'il soit emprisonné.
Dès le Levallois-Lozérien, au micro de Pauline Jacquot pour Europe 1, on précise qu'Isabelle Balkany va assurer l'intérim à la mairie de Levallois. Et puis également dans la chronique judiciaire du jour, Jean-Marie Le Pen mis en examen ce soir dans l'affaire des emplois présumés fictifs du Rassemblement national au Parlement européen. L'intéressé dénonce une arnaque politicienne.
Le journal de la nuit sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h05 et c'est la suite de votre journal avec à Nantes les suites de l'enquête sur la mort de Steve Canisso. C'est ce jeune homme disparu le soir de la fête de la musique sur fond d'intervention controversée des forces de l'ordre. Après des mois de polémiques et suite aux conclusions du rapport de l'inspection générale de l'administration, le ministre de l'Intérieur annonce que le commissaire en charge de l'intervention sera muté. Christophe Castaner reconnaît une défaillance dans la gestion du maintien de l'ordre. Alain Accot, ça veut dire quoi exactement ?
Ça veut dire tout simplement que ce commissaire divisionnaire n'a pas pris les bonnes décisions. Le rapport du LIGEA souligne qu'il y a 2 ans, dans les mêmes circonstances, fête de la musique, 200 teufeurs qui refusent l'arrêt du son à 4 heures du matin et qui jettent des projectiles, ce même commissaire avait fait reculer ses hommes et attendu le retour au calme. Cette fois, il les a fait avancer pour tenter de procéder à des interpellations. Une manœuvre qui interroge les enquêteurs de l'IGA, car le seul individu interpellé a été libéré quelques instants plus tard, de force, par une quinzaine d'assaillants. Le rapport souligne par ailleurs le volume important de munitions utilisées lors de cette opération de reconquête. 33 grenades lacrymogènes, 10 grenades de désencerclement, 12 tirs de LBD, c'est-à-dire autant que pour une manifestation de gilets jaunes à faible intensité. Sauf que c'était en pleine nuit, au bord de la Loire, à une heure, je cite le rapport, où la lucidité des teufeurs était altérée. Résultat, 7 personnes sont tombées à l'eau pendant cette opération de police, sans compter Steve. Voilà pourquoi le rapport évoque le manque de discernement de ce commissaire présenté comme un excellent fonctionnaire aguerri et apprécié jusqu'alors de sa hiérarchie.
Les précisions d'Alain Accot, chef du service police-justice d'Europe 1. Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, était l'invité ce soir de David Doucan sur Europe 1. Écoutez sa réponse à la question, ce commissaire de police n'est-il pas finalement un lampion ?
C'est pas la République du fusible. D'abord, la responsabilité du commissaire, elle porte sur une action d'ordre public, de sécurité publique. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a eu sans doute un manque de discernement. La question, c'est était-il opportun ou pas de répondre à cette prise à partie ? Juridiquement, elle est légitime. Ouais. Il y a sans doute un manque de discernement. Bon. Ce n'est pas la République des fusils, vous savez, en maintien de l'ordre public. Et c'est d'ailleurs une des conséquences qu'on a tirées avec Christophe Castaner, puisqu'un télégramme est parti à tous les préfets pour leur rappeler qu'on ne mène pas d'opération d'ordre public, de sécurisation public, la nuit, dans des endroits difficiles, sauf quand il y a des atteintes graves aux personnes, des atteintes aux biens. À ce moment-là, bien sûr, on intervient, mais on doit solliciter l'autorisation expresse de l'autorité préfectorale.
Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, qui était l'invité de David Doucan ce soir sur Europe 1 dans le grand journal de Nathalie Lévy. Notez qu'à Nantes, demain, plusieurs groupes de gilets jaunes appellent à une manifestation nationale pour l'acte 44 du mouvement. Nantes, chef-lieu du département 44, justement, la Loire-Atlantique. Et comme prévu, les habitants d'Île-de-France ont souffert aujourd'hui. La grève à la RATP a été très pénalisante pour les millions d'usagers qui empruntent quotidiennement les transports en commun, jusqu'à 98% de grévistes dans certains services. La galère du matin jusqu'au soir.
Je savais à quoi m'attendre. Je suis donc partie beaucoup plus tôt. Mais le problème, c'est que là, je m'en trouve coincée pendant des heures sur un quai. Voilà. Je me dis que le week-end est là, donc il faut rester positif.
Et voilà, covoiturage, vélo, trottinette, VTC pris d'assaut aujourd'hui, embouteillage sur tous les axes. Et si c'était un ballon d'essai ? Les agents de la RATP font en effet planer la menace d'une grève illimitée si le gouvernement ne renonce pas à toucher à leurs régimes spéciaux. Ce n'est que le premier épisode, promet Sonia, agent force ouvrière.
Là, pour le moment, c'est peut-être juste un avant-goût, effectivement. On peut faire beaucoup plus. On a sacrifié une journée de travail aujourd'hui. On est prêt à en sacrifier d'autres. On pourrait en retourner en 1995. Grosse grève, grosse mobilisation. C'est dommage, hein, parce qu'on fait une mission de service public. On a cœur à faire nos métiers correctement. Mais malheureusement, on est obligé de se battre pour nos droits, quoi.
Sonia.
On peut pas laisser passer ça.
Sonia, agent force ouvrière avec Jean-Gabriel Bourgeois. En attendant une éventuelle grève illimitée, dès lundi, de nouvelles mobilisations contre cette réforme des retraites. Cette fois, ce sont les avocats, les médecins, les hôtesses, les pilotes qui montent au créneau. Jeudi, ce sera au tour des personnels d'EDF, alors que des mobilisations nationales sont annoncées pour les 21 et 24 septembre. Et puis, sachez qu'une nouvelle grève, une nouvelle journée de grève est annoncée chez British Airways. La compagnie annule tous ses vols le 27 septembre.
Europe 1.
Et on avait envie d'y croire. Eh bien non, l'équipe de France de basket n'est pas en finale des championnats du monde. Les Bleus n'ont pas réussi à se qualifier. Deux jours après leur exploit historique contre les États-Unis, les Français se sont sèchement inclinés face aux Argentins, battus 80 à 66. Déception, forcément, du capitaine Nicolas Batum, qui reconnaît des failles.
Ils ont été beaucoup, beaucoup plus agressifs que nous dès le début. Ils nous ont rentrés dedans, on n'a jamais su répondre. Ils méritent clairement leur victoire aujourd'hui. Ils ont fait le même voyage que nous hier. On a fait l'avion avec eux, donc il n'y a pas d'excuse. On avait la fatigue, le même parcours des deux côtés. On n'a pas été bons, on n'a pas été nous-mêmes. Ils ont été très, très grands. Nous, on n'a pas été bons du tout. Faut passer à autre chose, rester concentrés, rester ensemble surtout. Pas se décomposer, parce qu'il y a encore l'Australie à battre derrière.
L'amertume du capitaine des Bleus, Nicolas Batum. La France disputera donc en effet la petite finale. Ce sera dimanche contre l'Australie. Et puis il y a du foot ce soir. Deux matchs avancés de Ligue 1. Lille, tout à l'heure, a battu Angers 2-1. Et en ce moment, on suit toujours Lyon qui se déplace à Amiens. Sébastien Boé, domination lyonnaise. Hein.
C'est bien ça, 67 minutes de jeu au stade de la Licorne et Lyon mène 2-1 face à Amiens. Des Lyonnais qui ont été surpris, on rappelle le scénario, hein, d'entrée de jeu avec un but encaissé dès la 7e minute sur coup franc, but inscrit par Christophe Jallet, un but qui a réveillé les Lyonnais qui ont agi une minute plus tard par Dembélé avant de prendre l'avantage au score à la 34e minute grâce encore à l'incontournable Moussa Dembélé, auteur de 5 buts déjà cette saison. Les hommes de Silvinho sont devant au tableau d'affichage et c'est mérité, ils dominent les débats et pour le moment ils préparent de la meilleure des manières leur entrée en lice en Ligue des Champions. Ce sera mardi face au Zénith Saint-Pétersbourg. On rappelle le score, donc 2-1 pour Lyon ici au Stade de la Licorne face à Amiens après 67 minutes et 30 secondes.
Merci Sébastien Boé. Et si vous le voulez bien, on fera un nouveau point avec vous d'ici 22h30. Et puis demain, ce sera PSG Strasbourg avec le retour de Neymar. Et puis je vous signale aussi que Samuel Umtiti s'est blessé un pied. Le défenseur du FC Barcelone et de l'équipe de France souffre d'une fissure. Il sera absent 5 à 6 semaines. Et je suis sûre que vous allez reconnaître cette réplique culte.
Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis ?
Les Japonais ?
Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire à des Chinois de Chine, ça ne marche plus.
Vous avez reconnu OSS 117 ? Eh bien, troisième volet est en préparation, tournage imminent, toujours avec Jean Dujardin, bien sûr, dans le rôle titre, et Nicolas Bedos confirmé à la réalisation. Après l'Asie, direction l'Afrique pour ces nouvelles aventures qui sortiront sur grand écran en février 2021. On connaît le titre, Alerte rouge en Afrique noire, début du tournage en novembre en France et au Kenya. Et on va jeter un œil tout de suite sur la météo avec vous, Anissa Haddadi. Et en cette veille de week-end, vous avez de bonnes nouvelles à nous annoncer ce soir, Anissa.
Oui, Isabelle, le week-end s'annonce très agréable. Demain, la journée débute en Bretagne, sur le Cotentin, l'Alsace et les Ardennes avec des nuages. Des nuages qui laisseront vite place demain après-midi à un beau soleil. Au sud de la Loire, les nuages, eux, sont très présents demain matin. D'ailleurs, demain après-midi, sur le Midi-Pyrénées, le Pays Basque, le Massif Central, le littoral méditerranéen, l'après-midi sera assez nuageux, avec même quelques ondées locales partout ailleurs, sur la Côte d'Azur, la région lyonnaise, la Franche-Comté, l'Alsace, la Bourgogne, la région parisienne, le Nord, la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire et le Limousin. Dans toutes ces régions, demain après-midi, il va faire très beau, il n'y aura que du soleil dans votre ciel. Les températures, elles continuent de grimper demain, 10 à 21 degrés de Beauvais à Nice le matin et demain après-midi, 26 à Belfort, 28 à Saint-Étienne, Reims et Paris, 30 degrés à Clermont-Ferrand et 32 à Bordeaux.
La météo signée Anissa Haddadi.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamo de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur général Casino du groupe Barrière. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Et à 22h15 sur Europe 1, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse et c'est avec vous Didier Hamo, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui termine la semaine sur une note hésitante ce soir.
En roue libre, proche de ses sommets quand même, avec un Dow Jones en hausse de 0,14%, une petite hausse, 27 220 points. Le Nasdaq, donc les valeurs de technologie, le Nasdaq ne suit pas, en baisse légère aussi de 0,22%, 8 177 points. L'élément de soutien cette semaine reste quand même à chercher du côté des négociations commerciales avec la détente récente observée entre Washington et Pékin. Pékin qui va donc exclure certains produits visés par la hausse des droits de douane. C'est un geste qui a été bien reçu sur les marchés financiers. Certaines rumeurs d'ailleurs évoquent un possible accord intermédiaire à venir, peut-être le mois prochain, entre les deux pays.
Ça fait un moment qu'on attend cet accord. Hein.
Ça fait très longtemps, oui. Alors peut-être qu'il va y avoir du nouveau puisque la reprise des négociations, c'est pour le début du mois d'octobre. Il y a quelques valeurs quand même discuté. Donc du côté des valeurs de technologie, ça baisse un petit peu, à commencer par Apple, moins 2%, 218,75 $. C'est la faute à Goldman Sachs, l'analyste, qui ne vise plus qu'un cours de 165 $ seulement sur Apple. Les essais gratuits de l'Apple TV ont laissé sceptique le broker. On a aussi quelques valeurs comme Microsoft en baisse, moins 0,10%, Facebook moins 0,10% aussi, de petits écarts. Hein. Amazon moins 0,2%, Intel moins 0,9%. Le pétrole reste en retrait sur les 60 $. L'euro remonte un petit peu, 1,1075 face au billet vert.
Et Didier, la Bourse de Paris, elle, a aligné une quatrième séance de hausse consécutive.
Doucement mais sûrement, effectivement, quatrième séance de hausse, plus 0,22%, 5 655 points, on est plus très haut des sommets annuel sur le CAC 40, la détente commerciale internationale et le gros coup de pouce monétaire de la Banque Centrale Européenne entretiennent le mouvement de hausse. Autre catalyseur, les résultats semestriels des entreprises, souvent solides. Exemple du jour, Innate Pharma. Là, on est dans les biotech, donc dans la recherche des biotechnologies. On a une hausse de 10% sur Innate Pharma après de bons semestriels. Le groupe dispose d'une trésorerie confortable de 200 millions d'euros. Et puis, le secteur bancaire monte assez logiquement après les largesses de la Banque Centrale Européenne hier. Tout le secteur financier est en hausse. Crédit Agricole, plus 3%. BNP, plus 2,5%. Société Générale, plus 1,7%.
Et puis l'exception du jour, Didier, il y en a toujours une, c'est le groupe Open qui a nettement reculé.
Oui, un groupe pas très connu, mais très actif dans...
Ils font quoi chez Open ?
Effectivement, les services numériques, c'est quand même très à la mode. Donc, c'est un groupe qui opère sur tout ce qui est services informatiques et numériques et qui a des petits soucis, des ajustements d'effectifs en ce moment. Ça explique que le groupe s'est tombé dans le rouge à hauteur de 5,8 millions d'euros quand même au premier semestre et ça fait des ordres et ça pèse sur le titre en baisse de 7% encore aujourd'hui, 13 euros pour le groupe Open. Sur les autres places financières, ça monte, tout monte en fait, hein, plus 0,4% à Francfort, plus 0,5% à Amsterdam. Ce ne sont pas des écarts spectaculaires, mais c'est de la hausse partout. Madrid, plus 0,6%, Milan, plus 0,4%, Londres, plus 0,3%, on rappelle le CAC 40, plus 0,22%, 5 655 points.
Merci beaucoup Didier Hamot. Puis je vous signale qu'à l'instant, le ministère français de l'économie et des finances annonce qu'il abaisse sa prévision de croissance économique pour l'an prochain, ainsi que ses ambitions de réduction du déficit public et de la dette. Il invoque un contexte économique international défavorable et les dépenses annoncées en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Ces chiffres ont été dévoilés en amont de la présentation du projet de budget pour 2020. Didier Hamot de Boursier.com était avec nous. Merci Didier. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité Écho. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le directeur général Casino du groupe Barrière.
Bonsoir Eric Cavillon.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le patron des casinos au groupe Barrière. Et on est chez vous, là, dans un endroit que vous êtes en train d'ouvrir, qui a ouvert il y a quelques heures. Ça s'appelle le Club Barrière. C'est un peu la nouvelle version des cercles de jeux. Alors déjà, pour que nos auditeurs comprennent bien, il y en a quelques-uns maintenant des cercles de jeux à Paris. Quelle est la différence entre un cercle de jeux et un casino normal ?
Alors effectivement, ça s'appelle un club de jeu, plus un cercle. Mais la différence principale avec un casino classique, c'est qu'il y a uniquement des jeux de cartes dans les clubs. Il n'y a pas de machine à sous, il n'y a pas de roulette. Donc vous allez trouver des jeux de cercle, hein, qui sont les jeux de poker, Texas Hold'em Poker par exemple, ou Omaha Poker. Et puis les jeux de contrepartie avec le Punto Banco, avec le Tricard Poker, l'Ultimate Poker et le Poker 21. Voilà les jeux qui sont autorisés dans les clubs à Paris.
Ces clubs sont venus remplacer les fameux cercles, hein, qui avaient une image très sulfureuse, on parlait de trafic d'argent, etc. etc. Qu'est-ce qui fait que là, c'est respectable ?
Bien, écoutez, je crois que le groupe Barrière est un groupe centenaire, donc on n'irait pas dans une galère. On va travailler bien évidemment, comme d'habitude, au plus près de la réglementation.
Mais là, surtout,
nous sommes des sociétés privées.
C'est beaucoup mieux régulé.
C'est régulé, exactement, puisque c'est la même réglementation que les casinos, une réglementation qu'on connaît bien avec nos 33 casinos.
Effectivement, vous êtes le plus grand groupe de casinos de France. On va y revenir dans un instant. Restons peut-être un petit peu sur cette idée de club. Quel est le public visé ? Parce que là, on n'est pas tout à fait comme dans un casino. C'est une petite entrée, il faut savoir que ça existe, il faut payer son entrée. Je crois que ça coûte 15 euros. Quel est le public visé ?
Bah écoutez, notre slogan, c'est là où se rencontrent les vrais joueurs. Donc, c'est évidemment d'abord destiné à des gens qui aiment le jeu, qui aiment l'ambiance également du jeu d'argent. On a également un restaurant, on peut venir dîner même si on ne joue pas, mais c'est une ambiance de club, comme son nom l'indique, et dans tous les sens du terme, avec une décoration magnifique, un endroit cosy sur les Champs-Élysées, sur la plus belle avenue du monde.
Alors, des joueurs, mais est-ce que ce ne sont pas quand même des joueurs un petit peu aisés? Par exemple, là, la salle dans laquelle nous sommes en train de faire notre interview, elle est tapissée de lingots d'or, j'ai l'impression qu'ils sont faux, mais il faut quand même avoir au minimum 2000 euros pour pouvoir jouer. C'est un public particulier quand même.
Alors c'est effectivement des caves à 2000 euros, mais on a des caves à 250 euros sur les tables qui sont juste à côté de nous, donc c'est quand même ouvert à des joueurs qui peuvent mettre 250 euros, mais les joueurs de poker, je dirais, sont habitués à ce type de mise. 2000 euros, c'est exceptionnel, c'est une salle particulière qu'on a voulu un petit peu exclusive, notamment pour la clientèle internationale.
L'ouvrir un vendredi 13, c'est bien évidemment fait exprès, là, c'est pas un hasard du calendrier.
Bah, écoutez, c'est à la fois fait exprès, mais c'est également dû au fait qu'on a un petit peu de retard, il faut bien le dire, hein, parce que la route a été longue pour ouvrir cet établissement, c'est toujours un petit peu comme ça dans les ouvertures, mais on est très très content que ça tombe un vendredi 13, c'est un jour béni pour les joueurs.
Ouais, là, c'est vraiment porte-bonheur dans le monde des jeux ?
Oui, absolument. Absolument.
On est donc ici dans un club. À Paris, il n'y a pas le droit d'avoir de casino. C'est 100 km autour de Paris, sauf vous qui avez trouvé une petite exception dans une station, à l'époque thermale, en l'occurrence Enghien-les-Bains. Je crois que c'est le plus grand casino de France par ailleurs. Vous n'avez pas peur que les clients qui vont venir ici, ils n'auront plus le courage d'aller en Enghien-les-Bains ?
Alors, nous, on parie sur le contraire, évidemment. On parie sur le fait que déjà des clients d'Enghien-les-Bains vont avoir envie de venir jouer au poker, parce qu'il n'y a pas de poker de Texas Hold'em, en l'occurrence, ou d'Omaha Poker à Enghien-les-Bains. Et puis, nous, on y voit une très belle synergie, notamment avec le Fouquet's. Donc, cette trilogie Fouquet's, Club Barrière et Enghien nous semble particulièrement intéressante, d'autant qu'on vise aussi des clients internationaux. Et peut-être que ces clients internationaux, en passant par la case Club Barrière, auront envie d'aller à Enghien. D'ailleurs, on a un service de chauffeur privé qui est prévu pour eux.
C'est vrai que là, vous êtes tout à fait en face du Fouquet's, donc il y a une logique, on est en plein sur les Champs-Élysées. Oui. Si on regarde le marché des casinos, on sait que c'est une activité qui est extrêmement liée à l'activité économique. Comment ça va en ce moment ?
Écoutez, en termes de chiffre d'affaires, c'est plutôt un marché en progression. Maintenant, on a énormément de charges et des augmentations de cahiers des charges qui sont importantes. Donc, en termes de rentabilité, j'en dirai pas autant. Mais par contre, nous sommes en progression de fréquentation et nous sommes assez contents de l'été qui vient de se passer, je dirais.
Comment vous l'expliquez ? Puisqu'il y avait eu quelques années difficiles. Je crois que depuis 2017, ça va un petit peu mieux. En 2017, on disait que c'était notamment grâce aux clients étrangers qui étaient de retour en France. C'est ça qui l'explique encore ?
Ce qui explique, je pense, le marché actuel des casinos, c'est que les groupes de casinos investissent de plus en plus. Les clients sont extrêmement attentifs à notre offre de jeu. Donc, on est amené à vraiment répéter les investissements tous les ans dans les casinos. Et c'est ça qui fait la clé aussi de cette progression sur ces 2-3 dernières années.
Ici, on n'a pas de machine à sous, hein, comme vous l'avez dit. Mais je crois que ce qui progresse le plus en ce moment, ce sont les jeux électroniques, des jeux de table comme la roulette anglaise ou le blackjack. C'est vrai, c'est toujours ça qui porte le marché des casinos ?
Alors, en grande partie, effectivement, ces jeux électroniques plaisent beaucoup à une clientèle un petit peu plus jeune, notamment. Ça rajeunit un petit peu la moyenne de notre clientèle.
Je crois que c'est environ 45 ans.
C'est 42 ans, exactement. C'est très intéressant parce que c'est des jeux qui permettent également de découvrir les jeux de table, puisque quand on est derrière un écran, c'est un petit peu moins inhibant que d'aller à une table de jeu pour la première fois. Donc on trouve que c'est vraiment, entre les machines à sous et les jeux de table, le lien parfait pour une nouvelle clientèle. Donc effectivement, les jeux de table électroniques, c'est ce qui fonctionne très bien actuellement dans les casinos.
Enfin, toute dernière question, la Française des Jeux va être privatisée. Est-ce que ça pourrait intéresser le groupe Barrière de devenir l'un des principaux investisseurs de la loterie nationale ?
Écoutez, franchement, c'est pas d'actualité du tout. On suit
la privatisation,
de près,
c'est d'actualité.
Choses.
Donc, il va falloir vite se décider quand même.
Vous me posiez une question. Donc,
c'est
absolument pas d'actualité, non.
C'est pas d'actualité. Un grand merci, Eric Cavillon, directeur général des casinos du groupe Barrière, qui était notre invité ce soir. On se retrouve lundi à 22h20.
Merci beaucoup et à lundi, Emmanuel Duteil. Et dans un instant, jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Et on parle beaucoup, évidemment, demain de l'affaire Balkany. Sobrement à la une du Figaro, avec la photo du maire de Levallois-Perret à son arrivée au tribunal correctionnel de Paris aujourd'hui, dont il est reparti, vous le savez, avec les policiers direction la prison. Laurent Baudin, dans le journal L'Alsace, écrit « Les tontons flingueurs ne répondent plus ». On s'est payé Balkany à tonner. Maître Éric Dupont-Moretti, son avocat, s'attendait-il à autre chose qu'un retour de bâton judiciaire concernant un couple qui s'est payé, lui, la tête de Marianne en bafouant les règles de la République depuis tant d'années, s'interroge le journaliste qui nous dit que Patrick Balkany est fan des tontons flingueurs au point d'avoir choisi la musique du film comme sonnerie de téléphone. Les Balkany possédaient une villa des îles joliment nommée Pamplemousse. Il faut la rebaptiser, écrit Laurent Geoffrin dans Libération. Citron vert ou orange amer serait plus adéquat. Dès ce soir, le journal Le Télégramme met par ailleurs en ligne une interview exclusive du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, suite à sa mise en examen dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Une interview réalisée par Hervé Chambonnière. « Je ne renoncerai pas à démontrer mon innocence », clame Richard Ferrand. « Je n'entends pas à renoncer donc à démontrer cette innocence et je ne vois pas pourquoi une mise en examen deviendrait une présomption de culpabilité, alors que cette situation, justement, me permet d'accéder au dossier et de me défendre ». Que ceux qui veulent garder leurs avantages lèvent la main, écrit pour sa part Florence Chédotal dans le journal La Montagne. Réflexe garanti, les agents de la RATP ont donné aujourd'hui le top départ dans la rue de la contestation sociale face au système de retraite universelle par points, pas tout à fait encore au point d'ailleurs, mais qui donne l'opportunité aux syndicats de reprendre la main après leur perte de contrôle du champ contestataire. Infirmiers, pilotes de ligne, avocats, kinés vont bientôt prendre le relais. Pas tous pour les mêmes raisons, mais craignant tous d'avoir gros à perdre dans cette affaire. Et puis, grande question pour finir, à la une du journal La Croix demain, où en est la psychanalyse ? 80 ans après la mort de Sigmund Freud, la psychanalyse, bien que décriée et concurrencée par d'autres thérapies, a encore des choses à nous dire. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et on va faire un nouveau détour, comme promis, par le stade de la Licorne pour retrouver Sébastien Boé qui suit pour nous la rencontre Amiens-Lyon. Sébastien, sont toujours les Lyonnais qui mènent ?
Exactement, l'Olympique Lyonnais mène 2-1 alors qu'il reste dans cette rencontre, eh bien, 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire. On rappelle que les deux buts de l'OL ont été inscrits par leur attaquant Moussa Dembélé, auteur de 5 buts déjà cette saison. C'est vraiment l'homme en forme hein, de l'Olympique Lyonnais. Mais s'ils ont largement dominé la première période, les joueurs de Silvinho connaissent des difficultés en seconde et ont même subi pendant une bonne quinzaine de minutes. Pour le moment, ils tiennent bon. La victoire n'est plus très loin et s'il y a victoire au bout, eh bien, ils vont faire, on va dire, le plein de confiance avant leur entrée en lice en Ligue des Champions. Ce sera mardi avec un premier match face au Zénith Saint-Pétersbourg. Et pour terminer, un chiffre, Amiens n'a jamais gagné face à Lyon. Ces deux formations ne se sont rencontrées que 4 fois dans leur histoire en Ligue 1. Pour l'instant, 4 victoires lyonnaises, peut-être la 5e à venir. Donc ce soir, on rappelle le score 2-1 pour Lyon. Et dans le temps réglementaire, il reste 5 minutes à jouer.
Et ce match de mardi que vous évoquiez, on le suivra évidemment également sur Europe 1. Merci beaucoup Sébastien Boé, en direct d'Amiens. Dans l'autre rencontre du jour, je vous rappelle que Lille a battu Angers 2-1. Et je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes en compagnie de Sabine Marin pour votre libre antenne. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Isabelle.
Très belle émission à vous Sabine.
Merci beaucoup. On vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.